Chapitre 10. Prisonnière. Pendant 9 jours, les Troyens en larmes ont défilé devant le corps du courageux guerrier, allongé sur un lit ciselé. Dans la pénombre du palais, les domestiques se déplaçaient aussi silencieusement que des fantômes, tandis que les gémissements des femmes répondaient aux complaintes des chanteurs. À la 10e aurore, on a dressé un bûcher, on a apporté le corps d'Hector sur un char magnifique tiré par des mulets, et on y a mis le feu. Lorsque le corps n'a plus été que braise, on a éteint le feu en y versant du vin, et les frères et compagnons d'Hector ont recueilli ses ossements. Ils les ont mis dans un vase d'or recouvert de voiles pourpres, qu'ils ont enterré sur un petit tertre gardé par des sentinelles. Puis ils ont célébré la gloire du mort au cours d'un repas donné dans la demeure de Priam, et ils sont retournés se battre. Cassandre tourne comme une lionne en cage dans la petite chambre où elle passe désormais presque tout son temps, lorsqu'elle n'est pas de service au temple. Une fois par jour seulement, elle monte au palais pour s'assurer de la santé de ses parents, car la mort d'Hector, après celle de plusieurs de ses frères, a anéanti le peu de vigueur qui leur restait. « Au cours du dernier conseil, nous avons eu une idée, lui annonce un jour Priam. Elle devrait te satisfaire, car elle permettra peut-être d'en finir avec cette guerre. » Cassandre regarde son père avec inquiétude. Elle n'a pas grande confiance dans les idées d'un conseil qu'elle n'a que trop vu à l'œuvre. « Les Grecs seront invincibles tant qu'Achille vivra, explique le roi. Nous avons donc décidé de lui tendre un piège. Polyxène l'attirera dans le temple d'Apollon pour la célébration de leur mariage. Paris, qui se sera dissimulé derrière la statue du dieu, en surgira au bon moment et visera Achille au talon. C'est le seul endroit où il est vulnérable, car c'est par là que sa mère le tenait lorsqu'elle l'a plongé dans le Styx. » Cassandre regarde son père avec horreur. « Ne me dites pas que Polyxène est prête à jouer ce rôle d'infâme d'appât. » « Polyxène est moins rebelle que toi. Elle a tout de suite accepté. »« Comment osez-vous la traiter ainsi ?» crie Cassandre, qui n'arrive plus à contenir sa fureur. « Ne vaut-elle pas davantage qu'un ver qu'on accroche à la ligne pour attraper un poisson ? Et trouvez-vous que c'est un procédé honorable pour vaincre un ennemi ? Quelle fierté tirerez-vous d'une victoire que vous aurez remportée par traîtrise ?»« Nous n'avons plus le choix pour en terminer avec cette guerre, soupire Priam. Je t'ordonne d'accepter ce plan. » Et cela va de soi de n'en trahir le secret à quiconque. Il est hors de question que je laisse se commettre une telle infamie. Le vieux roi regarde alors sa fille comme si elle lui était étrangère, et sa voix claque soudain comme un couperet. Tu oses t'opposer au seul plan susceptible de vaincre Achille, notre pire ennemi ? Sais-tu ce que cela signifie ? Que tu es contre nous, et donc à tout moment tu peux nous trahir. « Peut-être, en tant que père, pourrais-je te le pardonner, mais en tant que roi, je ne peux le tolérer. Il va donc me falloir te retenir prisonnière jusqu'à ce qu'Achille soit mort. »« Tu ne feras pas cela, père !» hurle Cassandre en se battant bec et ongles pour échapper à la poigne des gardiens que le roi a déjà appelés d'un claquement de main. « Ne m'appelle plus jamais père. Désormais, tu n'en as plus le droit, » réplique Priam en se détournant de sa fille avec mépris. Et il quitte la salle sans se retourner, sourd aux supplications de sa fille préférée. On a enfermé Cassandre dans un lieu qu'elle connaît bien, car c'est là que ses frères et elle allaient se cacher enfants lorsqu'ils voulaient prouver qu'ils n'avaient peur de rien. Une salle souterraine située dans une partie abandonnée des fortifications de la ville. Des rongeurs y trottinent à toute vitesse, tandis que des insectes vous frôlent le front au milieu d'odeurs de moisissure et de pourriture. Une fois par jour, une trappe s'ouvre dans l'obscurité et les mains déformées d'une vieille femme poussent vers la prisonnière une galette d'orge et une écuelle d'eau. Puis la trappe se referme. Cassandre tâtonne et se jette sur ce maigre repas qu'il lui arrive de partager avec les souris, ses seules compagnes. Elle leur parle parfois à voix basse pour ne pas être entendue du garde qui fait les 100 pas au-dessus de sa tête. « Bienheureuse petite bête, c'est peut-être vous qui avez raison. » Vous vivez votre vie de souris sans vous poser de questions, sans vous demander comment échapper à votre pauvre condition de rongeur. Moi, j'ai refusé d'être une femme ordinaire, et Apollon s'est vengé. Qu'une femme veuille égaler les hommes, c'était déjà beaucoup, mais qu'elle ose braver les dieux. Son maigre repas achevé, elle se laisse aller à la somnolence pour tenter d'oublier sa triste condition. La plupart du temps, cependant, son sommeil est hanté de cauchemars épouvantables dans lesquels elle voit sa ville envahie par les Grecs, pillée, brûlée, rasée. Un matin, enfin, les mains qui ouvrent la trappe lui lancent non pas de quoi manger, mais le baudrier d'Achille. « Ils ont donc réussi, » murmure Cassandre. « Le Grec est mort et je vais enfin revoir la lumière du jour. » Mais lorsqu'on la tire de sa prison, le soleil qui l'éblouit lui donne un violent mal de tête. Doit-elle se réjouir de ne plus être prisonnière? Elle sera peut-être libre d'aller et venir à sa guise, mais plus personne maintenant n'acceptera de lui parler. Elle est une hors-la-loi à qui même son père tournera le dos. C'est presque comme si elle était déjà morte.